Yasmine Abdel Fadel.
On retrouve Jordan Chénard. Jordan, AI qui fait son entrée dans le monde des médias, c'est ça craint ça?
Ah, tu trouves que ça craint?
Ben moi, ça me fait peur.
Ben je te dirais, c'est déjà rentré depuis un certain temps. C'est là où je voulais y revenir aujourd'hui parce que il y a un article qui a été écrit par Zach Seward, qui est le directeur de la rédaction des initiatives d'intelligence artificielle au New York Times, qui prend position sur l'intelligence artificielle dans les médias. Puis je trouvais vraiment son point de vue assez intéressant, d'autant plus que son employeur, le New York Times, poursuit présentement OpenAI. Donc, d'avoir son point de vue là-dessus, je trouvais ça intéressant. Et il rappelle dans cet article-là que c'est sûr que c'est dans les plus gros médias, mais en tant que tel, dans le journalisme d'enquête, par exemple, au New York Times, ils ont déjà des outils d'intelligence artificielle depuis longtemps. Puis je pense que c'est intéressant de revenir aujourd'hui à juste ramener où est-ce qu'on en est aujourd'hui et de pas juste penser qu'il y a l'intelligence artificielle générative qu'on appelle comme OpenAI, ChatGPT. Il y a vraiment d'autres outils. Et c'est ce qu'il a voulu faire là-dedans. Fait que ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était d'expliquer comment ça s'est fait en premier et où est-ce que ça pourrait aller, puis que ça semble vouloir aller du côté des médias, du moins aux États-Unis. J'ai pas réussi à avoir assez d'informations pour nos médias canadiens de ce côté-là. Donc, si je schématise rapidement la structure d'un média d'information, tu as le volet commercial et le volet information. Le volet commercial, c'est qu'il existe parce que pour faire de la bonne nouvelle, du bon travail en journalisme, ça prend du monde qu'on paye. Ça sort pas de nulle part, ça prend des gens à payer. Exactement, ça prend des journalistes et toutes les équipes autour de ça qui permettent que leur travail existe. Donc, les commerciaux là-dedans sont là pour amener de l'argent au moulin et avoir une structure qui permet de payer tout le monde. Et il y a l'autre côté qu'on appelle le groupe de l'information, qui est vraiment le journalisme et tout l'organe d'information qui est lié à ça. Entre les deux, il est supposé avoir un mur. La majorité du temps, il y en a un. Et en fait, l'arrivée de ChatGPT a démontré qu'il y avait réellement un mur entre les deux parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se sont fait prendre par surprise aux États-Unis, encore une fois, avec le volet commercial.
Dans quel sens?
Quand ChatGPT est sorti, dans le sens où les commerciaux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est mettre l'accent sur la profitabilité, donc d'aller chercher le plus d'argent possible. Et pour faire ça sur les médias numériques, c'est avec la pub, donc la pub numérique. Plus t'as d'articles, plus t'as un inventaire publicitaire à vendre, plus t'as un inventaire publicitaire à vendre, plus tu rentres d'argent. Qu'est-ce qu'ils se sont dit en premier quand ils ont vu ChatGPT arriver? On va automatiser une pelletée d'articles. On va s'arranger pour qu'ils sortent vraiment dans les meilleurs résultats sur Google. On va aller chercher du clic. On va vendre des bonnes stats. On va vendre la pub chère et on va amener de l'argent au moulin. Et encore une fois, je mets toujours l'accent sur la bonne foi. C'est sûr qu'il y a du monde qui a été malhonnête là-dedans, mais l'idée, je porte toujours l'idée que c'est pour payer le reste des journalistes pour faire ça. Il y en a d'autres, et là, je donnerai pas les noms de ce côté-là. Il y en a d'autres qui ont vraiment voulu réduire au maximum leur équipe. Ça, c'est une autre approche, puis ça a planté. Mais bref, les commerciaux ont fait fausse route. Et c'est ce qui a donné, en fait, un gros coup du point de vue de ChatGPT et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire générative. C'est-à-dire que ça a décrédibilisé le travail des journalistes. Ouais. Ça a diminué le produit. Fait qu'il y a une quantité mensongère. Il y avait beaucoup de mensonges qui ont été trouvés là-dedans, des erreurs, des hallucinations, carrément. Et là, après ça, ça reflétait du côté du journaliste et les journalistes apprenaient live quand les différentes enquêtes sortaient que, OK, notre employeur, de son côté commercial, a diffusé des trucs sans journaliste, sans nous utiliser, puis en plus, ça ternit notre nom.
Mais en fait, c'est qu'il noie l'information du journaliste dans un paquet de mensonges générés par l'intelligence artificielle. Fait que tout le monde pense que c'est des journalistes qui l'ont fait.
Exactement. Et c'est cette approche-là qui a fait peur au monde journalistique, c'est-à-dire, OK, vous voulez nous remplacer. Et l'idée que Zach Seward ramène, c'est que c'est pas ça que ça devrait être comme approche. Un outil comme ça peut aider à faire des choses. On devrait, au contraire, faire en sorte qu'on garde les équipes à la même hauteur qu'elles sont, mais permettre aux journalistes, avec ces outils-là, d'automatiser, de passer moins de temps à... Je donne un exemple. Quand je faisais quand je faisais mon cours de vidéojournalisme, une des choses qui m'avait fâché, c'était que je passais 20 % de mon temps à aller chercher toute l'information sur le terrain, rassembler ce qui était important, aller chercher les experts que j'ai. Et après ça, là, c'était, faut que je fasse mon plan pour que à la fin de la journée, j'ai mon vidéo de 2 minutes qui présente ma nouvelle. C'est beaucoup de travail et j'avais pas assez de temps pour trouver vraiment l'information que je voulais. Les outils aujourd'hui permettraient de passer plus de temps dans la nouvelle. Donc, monter d'un cran, pas que les journalistes veulent pas le faire, il manque de temps.
Ben
faut être sur tous les réseaux en même temps, faut parler à plein de monde, faut trier de l'information. Et c'est là où ce que les outils d'intelligence artificielle pour être utilisé. Et là, présentement, ce que ça fait, les outils qui étaient très chers, par exemple, des outils qu'on appelle de machine learning, donc d'apprentissage machine, que tu peux leur donner vraiment des rôles bien, bien précis. Ils vont apprendre à faire une affaire, ils vont la faire super bien. Par exemple, les Panama Papers en ont eu besoin de ça, de fouiller dans les documents financiers, dans une mer d'informations que c'était impossible que l'humain puisse fouiller là-dedans, mais l'intelligence artificielle était construite pour trouver la bonne info. Après ça, ça passait à un journaliste et là, le journaliste pouvait se pencher là-dessus. Au lieu de chercher, il y avait vraiment l'information concrète devant lui pour après ça pousser ses recherches, aller chercher ses experts. Bref, faire le travail pour lequel il est un expert. Donc, il ramenait ça. Il y a des outils comme ça et l'intelligence artificielle générative est pas en reste non plus. Au lieu de remplacer le journalisme, qu'est-ce qu'elle permet de faire l'intelligence artificielle? Dans une journée où ce qu'un journaliste veut sortir un article, il passe énormément de temps à lire l'information, rassembler ses notes, bref, à faire une pelletée de choses qui peut difficilement réutiliser dans son article ou du moins le diffuser comme ça parce que c'est brouillon. Donc, il va passer beaucoup de temps à mettre en ordre, construire, structurer son article pour après ça le publier. ChatGPT peut aider sans enlever la nature d'écriture et le style du journaliste. Il peut l'aider d'un coup. Tu rassembles tes informations, tu donnes tout ce qui est important, tu as passé beaucoup plus de temps à fouiller, tu garoches ça, tu donnes le style de structure que tu veux et tu sors un brouillon. On s'entend, c'est les grandes lignes.
Ouais, c'est ça.
Et après ça, toi, ce qui te reste, c'est oui, à rédiger ton article comme tu le veux, avec ta tonalité, ta voix, mais tu n'as pas perdu le temps de la page blanche ou à retrouver des notes ou quoi que ce soit. Donc, et aussi, ça permet souvent de partir de documents très, très difficiles, très longs. Mais demandé à ChatGPT, je l'ai lu. Peux-tu me résumer tel segment? C'est ça pour que je puisse l'utiliser dans mon article. Et ça, c'est des choses, là, quand tu as passé 12 heures à lire sur quelque chose, le résumé est des fois extrêmement difficile. Donc, c'est des outils qui sont bien importants. Fait que c'est une façon très saine, je pense, de voir ces outils-là et plus positive. Et pour vrai, si ça peut être entendu, s'il y a d'autres commerciaux qui cherchaient vraiment à remplacer des journalistes, c'est pas la bonne approche parce qu'à court terme et même à long terme, ça va jamais payer de faire plus pour avoir plus d'argent. Vaut mieux moins en quantité, mais une plus grande qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, le devoir en termes de médias d'information, ben ça va être de pouvoir monter la qualité, retrouver les gens parce que si ton article ne se différencie pas d'un site de désinformation, où est-ce qu'on s'en va? Non, là, on a les outils pour travailler mieux que la désinformation, mais je pense que c'est pas de couper les équipes qu'il faut faire, c'est les outiller pour qu'ils fassent plus puis qu'ils soient encore plus dans leur dossier que ce qu'ils pouvaient le faire auparavant.
Jordan, il y a ce deuxième sujet, puis j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus, parce que toi, tu sens beaucoup plus optimiste que bien du monde que je lis et que j'entends. C'est tout le dossier de reconnaissance faciale à la SAAQ. Toi, t'appelles les partis d'opposition à tout le monde à respirer par le nez.
Ben, je l'ai envoyé comme ça, mais c'est pas. En fait, j'ai vu ce que tu as eu comme discussion là, ce matin avec Alexandre. J'ai vu aussi Mario Dumont en parler. J'ai vu bref, je vous ai vu aller. Puis pour vrai, vos positions sont bonnes. Ce que j'ai vu surtout en général, puis c'est pas juste de votre côté, c'était vraiment du côté de tous les médias. Puis c'est normal. La biométrie fait peur. Puis moi, c'était là où je voulais arriver. Juste avant que j'arrive pour ce côté plus technique, juste dire, je fais beaucoup de blagues sur Eric Kerr et ce qui se passe là, ben je dis des blagues. Il est jamais là, puis quand il est là, tu te dirais, t'aurais peut-être dû rester de ton côté. C'est encore une approche, puis j'en parle souvent, là, la fameuse approche du vendeur de char, là. Fiez-vous sur moi, ça va, c'est correct. Puis, comme s'il fallait faire confiance 100%. Son dossier, c'est la cybersécurité. Fait que d'emblée, là, je le dis, la commission qui est demandée, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. D'où Eric care? Does Eric care? Je ne sais pas s'il care, mais bon. Mais non, pour vrai, c'est maladroit. Puis encore une fois, je mise sur la bonne foi. Mais s'il veut vraiment, il a besoin de gens pour. Il est à la cybersécurité. Le monde comprend pas ça. Il peut pas dire que c'est une tempête dans un verre.
Mais non, mais lui, il est plus ministre que cybersécurité. Tu sais, oui. Je pense qu'il est plus intéressé par le ministre que par la cybersécurité numérique.
Puis c'est ça, puis c'est là où c'est triste, puis la surveillance à laquelle il fait face, là, elle est super importante. Moi, ce que je voulais pas, puis c'est là où ma crainte que j'ai commencé à avoir, c'est le volet biométrique qui fait un peu peur, puis je voulais rassurer le monde là-dessus. Je suis pas un expert de cybersécurité, mais j'ai travaillé assez de mandats avec des experts pour avoir en tant que citoyen juste assez d'infos pour savoir où est, à partir de quand qu'il faut s'inquiéter. La biométrie, là, si je compare rapidement avec qu'est-ce qui est plus dangereux, avoir un mot de passe pour te connecter ou te scanner la face pour te connecter, te scanner le visage est beaucoup plus sécuritaire qu'un mot de passe. Le mot de passe, la majorité des gens vont utiliser le même mot de passe partout, ce qui fait qu'ils vont donner accès à une quantité d'affaires. Et même quand ils font attention à leur mot de passe, il peut être facile à trouver. Les outils aujourd'hui sont très, très performants pour deviner des mots de passe. Et si vous avez répondu à quelques sondages Facebook qui vous dit c'est quoi ton nom de chien, c'est quoi ta première voiture, il y a des bonnes chances que vous êtes dans une base de données où ce que votre mot de passe va être trouvé en 2 secondes. Donc, c'est le volet le plus archaïque qu'on a, c'est-à-dire de marquer un mot de passe. La biométrie, ce qu'elle fait, c'est qu'à partir de notre visage, c'est pas notre visage qui est dans la base de données au final. Un ordinateur, ça fonctionne, c'est des zéros puis des uns. On le construit pour qu'on voit des images, qu'on voit des textes, des sons, mais en bout de ligne, la structure, c'est des zéros puis des uns. Quand on scanne notre visage, notre face n'est pas dans la base de données, ça devient un identifiant particulier,
ouais, mais
c'est selon le système.
C'est ça, c'est le problème, Jordan, là, c'est qu'ils ne veulent pas l'utiliser comme service d'authentification de la personne, c'est qu'ils veulent l'utiliser pour enlever des doublons. Là, on va-tu leur donner des données biométriques pour les aider à mieux archiver leurs affaires?
Juste boucler ça, pour biométrie, il faut pas s'inquiéter. C'est plus sécuritaire, si le gouvernement va aller vers ça, good. Par contre, là, c'est là où ce que faut surveiller. C'est-à-dire, il va falloir qu'il y ait quelque chose, un groupe indépendant ou quoi que ce soit. On parle d'ArriveCan, quelque chose que dès le départ, l'appel d'offres n'avait aucun rapport. Et on a vu combien ça a coûté puis que ça sert pas à grand chose. Bref, ça prend des organismes indépendants qui puissent surveiller parce que oui, ça, comment ça qui veut ça? Puis je me souviens plus c'était qui était avec toi ce matin, mais il l'a bien nommé. Il dit, t'as pas assez d'informations dans une fiche pour être capable de voir les doublons. T'as besoin de la biométrie, t'as besoin de la face pour ça.
Pas.
Il me semble, le même nom, l'adresse, numéro de permis de conduire.
Date de naissance, t'as déjà tout?
Ben, c'est ça. Je veux dire, les chances que t'as d'avoir le même nom et la même date de naissance, ça arrive, mais t'as quand même d'autres données qui te permettent de trancher si c'est un doublon ou pas. Fait que, qui disent que c'est une tempête dans un vin d'eau puis qu'on comprend pas, on se le demande, est-ce que lui comprend? Puis c'est là où ce que je voulais dire, c'est je suis pas vraiment d'accord, faut surveiller, de toute évidence, faut surveiller ce ministère-là et faut juste pas s'inquiéter pour la biométrie, c'est plus sécuritaire que nos mots de passe.
Est-ce que c'est plus sécuritaire qu'un fax?
Tu ris, hein, mais ouais, je blaste souvent, je génère souvent le fax aussi, mais pour des raisons de sécurité, c'est encore gardé souvent dans les hôpitaux, parce que, et là, c'est
fiable,
une histoire très technique. C'est fiable et ça rentre pas en conflit avec d'autres systèmes, par exemple, la résonance magnétique.
Ben
tu
oui.
peux pas mettre de Wi-Fi comme tu veux.
Mais il y a plus personne qui ont produit des fax, mais nous, on en a des versions, là. Ils ont même pas besoin d'obsolescence programmée. Ça ne va jamais casser, je vous le dis. C'est encore actif dans tous les hôpitaux du Québec. Jordan Chénard.
Ça fonctionne.
Jordan Chénard, spécialiste communication marketing. Merci beaucoup.
Merci à toi. Salut.